Nous tous qui sommes réunis cet après-midi, nous avons au moins un point commun. À la fin de la journée, on aura passé 1 heure et demie au même endroit, à faire globalement les mêmes choses, hein, à chanter les mêmes chants, à dire Amen aux mêmes prières, à écouter, je l'espère, le même message, la même prédication, et même sans doute à manger le même pain, à boire de la même coupe. Et quelle chance, n'est-ce pas? Quel privilège de pouvoir faire cela librement, je le disais tout à l'heure, contrairement à d'autres régions du monde où c'est beaucoup plus compliqué, où les chrétiens se réunissent au péril de leur vie. Quel privilège de pouvoir faire ça librement, dimanche après dimanche. Mais, quel est et quel sera l'effet de ce culte dans votre vie de la semaine qui vient, qui commence en fait aujourd'hui? Si vous êtes présent dans ce lieu aujourd'hui, ça veut probablement dire que vous vous dites chrétien. Je ne sais pas, hein, peut-être pas, mais je me dis, il y a quand même des chances que ça veuille dire que vous vous disiez chrétien. Vous vous intéressez au moins un peu, ça je peux l'affirmer, au message de l'Évangile. C'est pour ça que vous êtes en train de m'écouter attentivement. Vous vous intéressez au moins un petit peu à la parole de Dieu, qui est la Sainte Bible. Mais pourquoi? Voilà la question. Pourquoi vous intéressez-vous à ces choses? Pourquoi vous intéressez-vous à l'Évangile? Finalement, qu'est-ce que ça change pour vous d'entendre la parole de Dieu, de venir au culte, de vous réunir avec d'autres chrétiens? Qu'est-ce que ça change pour vous? C'est la question que soulève le texte qu'on est sur le point de lire et qui nous parle de quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'Évangile, qui s'est beaucoup intéressé à la parole de Dieu, qui s'est beaucoup intéressé à la Bible, si vous voulez, un témoignage chrétien, mais qui s'est intéressé à ces choses en vain. En vain. Et c'est l'histoire du gouverneur, d'un gouverneur qui s'appelle Félix. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas un chat qui s'appelle Félix, mais c'est un gouverneur romain. Et je vous rappelle que depuis la semaine dernière, on est en train de s'intéresser à un épisode du livre des Actes qui couvre les chapitres 24 à 26, où l'apôtre Paul est à Césarée, une grande ville de son époque, et il est prisonnier des Romains. Les Romains l'ont fait prisonnier, en fait, pour le protéger quelque part de la fureur des Juifs qui se sont mis en colère contre l'apôtre Paul en raison de son témoignage chrétien, en raison de ce qu'il était en train de dire sur la personne de Jésus. Et la semaine dernière, on a vu dans l'épisode qui couvre la plus grande partie du chapitre 24 que l'apôtre Paul comparaissait devant ce gouverneur, le gouverneur Félix. Et alors les gens qui accusent Paul ont engagé un avocat pour l'accuser. Et Paul ensuite, il va se défendre. Et ensuite, la parole est donnée brièvement à l'arbitre de la situation qui est le gouverneur Félix. Et on a vu la dernière fois que l'auteur mettait en contraste l'intervention de l'avocat des Juifs avec l'intervention de Paul pour nous montrer, ben Paul, lui, il est beaucoup plus droit dans ses bottes. Il est transparent, il est au clair, son témoignage est costaud, et en fait, l'auteur veut donner de la crédibilité au christianisme en faisant cela. Et ensuite, on a vu, mais brièvement, que celui qui était censé trancher entre les deux, l'arbitre, le fameux gouverneur Félix, on a vu, et c'est très surprenant, il décide de remettre sa décision à plus tard, ce qui défie toute logique. Parce que l'apôtre Paul, à la fin de sa défense, a soulevé un enjeu extraordinaire qui est la question de la mort. Et Félix ne peut que se sentir concerné. Mais au lieu de se positionner par rapport au message du christianisme, il décide de remettre sa décision à plus tard. Et maintenant, aujourd'hui, on va voir un peu mieux pourquoi Félix réagit comme ça. Et on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans son cœur à lui. Et cette fois, l'auteur nous raconte cet épisode qu'on va lire versets 24 à 27 pour nous mettre en garde contre un danger, celui de s'intéresser en vain à l'Évangile. Autrement dit, celui de venir au culte en vain, de lire la Bible en vain, de venir et de fréquenter des chrétiens en vain. L'auteur va nous montrer, vous allez voir, que toutes les conditions extérieurement favorables, imaginables et possibles, ne garantissent pas notre réceptivité à l'Évangile, ni non plus l'effet bénéfique de ce message dans notre vie. Et donc, j'espère qu'à l'issue de cette prédication, vous aurez été incité à à un examen de soi, un examen de vous-même. Parce que comme on va le voir, l'auteur nous montre que le problème fondamental auquel nous devons faire face, c'est celui de nos motivations profondes. Et il n'y a que vous qui pouvez examiner ça avec Dieu. D'accord? La leçon finalement qu'il faudra retenir, c'est la suivante. Et c'est pas très compliqué. Hein. Vous savez, c'est jamais très compliqué quand on étudie la Bible en fin de compte. Hein. Le christianisme ne porte du bon fruit que chez ceux qui veulent sincèrement connaître Dieu. Le christianisme ne porte du bon fruit que chez ceux qui veulent sincèrement connaître Dieu. Alors on va lire le texte. Il n'est pas très long. Hein. Chapitre 24, on lit les versets 24 à 27, c'est juste la fin du chapitre. Quelques jours après, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il envoya chercher Paul. Il l'écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. Mais comme Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit « Pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il l'envoyait chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Voulant s'assurer les bonnes grâces des Juifs, Félix laissa Paul en prison. Voilà pour la lecture de la parole de Dieu. On va prier et ensuite on va regarder tout ça un peu plus en détail. Merci pour ta parole, Seigneur. Encore une fois, quelle grâce, quel privilège de pouvoir lire ces textes librement et de pouvoir être instruit sous l'effet de ton esprit, Seigneur. Alors viens et rends-nous attentifs, s'il te plaît, à tout ce que tu veux nous dire aujourd'hui et applique-le à notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le christianisme ne porte du bon fruit que chez ceux qui veulent sincèrement connaître Dieu. Alors, la première chose que l'auteur veut nous faire comprendre, c'est que les conditions extérieurement favorables ne garantissent pas notre réceptivité à l'évangile. Qu'est-ce qui se passe dans le texte? Paul est prisonnier donc à César et aux mains des Romains, mais les conditions de son emprisonnement sont souples, on a déjà vu ça. Elles sont souples. Il a une relative liberté de mouvement, d'accord? Mais il n'est pas libre. Et puis donc il y a une relation qui va s'établir entre Paul et le gouverneur romain, Félix. Et Félix a donc, le texte nous le dit bien clairement, un accès privilégié au message de l'évangile et à la parole de Dieu. Non seulement parce que sa femme Drusille est juive elle-même, donc juive, elle connaît au moins un peu les Écritures de l'Ancien Testament, mais en plus, l'apôtre Paul, himself, le grand apôtre, le super apôtre, l'apôtre des païens, que Jésus lui-même a nommé et auquel Jésus a confié sa mission d'aller vers les païens, Paul lui-même est à la disposition de Félix, 24 heures sur 24. Et le texte nous dit que le gouverneur Félix écoute Paul au sujet de la foi en Christ Jésus. Il peut lui poser toutes les questions imaginables. Et il peut le faire fréquemment, nous dit le texte. Et cela, pas juste pendant une petite semaine, pendant 2 ans. Ok, le gouverneur Félix a à sa disposition l'apôtre Paul. D'accord? C'est son prisonnier. Et il peut s'entretenir avec lui quand il veut, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, au sujet de la foi en Christ Jésus, lui poser toutes les questions possibles et imaginables, toutes les objections possibles et imaginables, pendant 2 ans, 24 heures sur 24 s'il veut. Vous pouvez imaginer des conditions extérieurement plus favorables que ça, pour comprendre ce que c'est que l'évangile, pour être bien au courant de ce que c'est que le christianisme. Malgré tout, le texte nous dit que rien ne change chez Félix. Il y a un problème quelque part. Son intérêt pour l'évangile a été vain, en dépit de ses conditions très favorables. Alors on a beau réunir les conditions les plus favorables possibles, extérieurement, j'entends, parfois il y a un problème plus fondamental, un problème qui n'est pas apparent. Il y a quelques années, on a organisé un repas d'église. Je ne pense pas qu'il y avait qui que ce soit parmi vous qui était là, c'était il y a pas mal d'années. Un repas d'église, super, le confort, chacun a apporté des plats, machin, on avait tout ce qu'il fallait à manger, communion fraternelle, c'est super, vous savez ce que c'est un repas d'église, on s'amuse bien, c'est agréable. Il se trouve que le lendemain et dans les jours qui ont suivi, plusieurs personnes ont eu des problèmes, disons, digestifs. On a su, dans la semaine qui a suivi, c'était aux informations, qu'une grande marque de produits laitiers, que je ne vais pas nommer, pour ne pas leur faire de la contre-publicité, c'est ma grande magnanimité à leur égard, a rappelé des briques de lait, parce qu'il y avait dans certaines briques, dans certains lots, du lait frelaté, à cause d'un problème de stérilité des machines de fabrication. D'accord? Dans la semaine, on a appris ça. Et il se trouvait que quelqu'un avait fait un flan avec du lait de cette marque-là. D'accord? On a joint un petit peu les indices et on a pu en tirer une conclusion sur les raisons des problèmes digestifs des gens. Le repas était super. On était à l'église avec des frères et des sœurs chrétiens. La nourriture était bonne, conditions extérieurement favorables. Mais il y avait un problème quand même. Un problème qui n'était pas apparent. Un problème plus fondamental qui s'est manifesté par la suite, n'est-ce pas? Les conditions extérieurement favorables ne garantissent rien en fait. Et c'est ce que l'auteur veut nous montrer, je crois, dans un premier temps ici. Et vous, à votre tour, et moi, on vient à l'église tous les dimanches, peut-être, on s'intéresse intellectuellement à la Bible qu'on trouve être un livre passionnant. On a vraisemblablement été baptisé, on prend la Sainte Cène régulièrement, on aime être avec des frères et sœurs chrétiens. Peut-être même que vous êtes un ami proche du pasteur. Peut-être même que vous êtes le pasteur. Mais toutes ces conditions extérieurement favorables et privilégiées ne garantissent pas notre réceptivité à l'Évangile, ni l'effet bénéfique de la parole de Dieu dans notre vie. C'est ce que l'auteur veut nous faire comprendre dans un premier temps. Et il veut, je pense, nous appeler à cette prudence et cette lucidité. Ouh là là! Conditions extérieurement favorables! Super! Non, non, mais attends, prudence. Ça ne garantit pas l'effet bénéfique de la parole de Dieu dans ta vie. Ça ne garantit pas ta réceptivité à l'évangile. Pas plus que ça ne la garantit pour le gouverneur Félix qui a passé 2 ans avec l'apôtre Paul à sa disposition 24 heures sur 24. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On devrait, je pense, comme on le ferait sans doute avec une brique de lait frelaté, l'enlever du rayon, la passer au laboratoire et l'examiner pour voir quel est le problème. Faisons cela avec notre cœur. Examinons notre cœur au laboratoire, sous le microscope. Posons-nous la question que ce texte nous fait poser et qui est celle, vous allez voir, de nos motivations. De nos motivations. C'est pour ça que je demandais au début, pourquoi est-ce qu'on vient au culte? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la vie? Pourquoi est-ce qu'on aime être avec les frères et sœurs chrétiens? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on espère? Quelles sont nos motivations profondes? Et la deuxième chose que le texte nous fait comprendre, c'est que, en effet, ce sont nos motivations profondes qui conditionnent notre réceptivité à l'Évangile. Le texte nous dit, en fait, assez explicitement, quel était le problème chez le gouverneur Félix. C'était clairement un problème de motivation. Il s'intéressait beaucoup à l'Évangile, il valorisait sa relation privilégiée avec Paul, hein, il l'envoyait chercher assez fréquemment, nous dit le texte, pour s'entretenir avec lui, mais qu'est-ce qu'il espérait? Il espérait que Paul lui donnerait de l'argent. Il espérait en tirer un profit matériel, vraisemblablement une sorte de rançon pour sa libération. Il espérait que Paul le payerait pour qu'il puisse partir, quoi. Ou, si c'est pas Paul, peut-être les chrétiens qui feraient une petite collecte et puis qu'ils iraient payer un petit pot de vin au gouverneur pour laisser partir l'apôtre Paul. C'est sans doute ça qu'il espère. En tout cas, le texte dit qu'il espérait recevoir de l'argent. Félix est motivé par des intérêts clairement personnels, n'est-ce pas? Ce qui est confirmé d'ailleurs par la suite, lorsque le texte nous dit à la fin, verset 27, qu'il laisse Paul en prison, non pas parce qu'il en veut particulièrement à Paul, il le laisse en prison parce qu'il veut s'assurer les bonnes grâces des Juifs. Donc Félix est clairement motivé par des intérêts personnels. Et nos motivations profondes, à nous aussi, qui sommes des êtres humains, tout comme Félix, elles agissent, nos motivations profondes, comme un filtre qui conditionne notre réceptivité à la parole de Dieu. J'ai remarqué une chose depuis quelque temps maintenant. Moi, j'écoute une radio dans ma voiture qui passe pratiquement toutes les heures des résultats sportifs. D'accord? J'ai remarqué une chose, c'est que quand ils passent les résultats sportifs, on pense que ça dure quoi? 20 secondes peut-être? Je ne retiens que le résultat d'une équipe. Tout le reste me passe par-dessus la tête, ou par, il rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Mais je retiens juste les résultats d'une équipe, je laisse deviner laquelle. Pourquoi ? Parce qu'on a une sorte d'égocentrisme, égocentrisme sportif en l'occurrence, qui fait qu'on écoute à travers un filtre, et il n'y a qu'un seul truc qui ne passe pas dans le filtre, c'est ce qui nous intéresse dans notre égocentrisme sportif, notre chauvinisme. Ah, Lyon a gagné. Ah, Lyon a perdu. Et on retient le score. Mais alors, les autres, Saint-Etienne, PSG... Enfin, si on retient Saint-Etienne quand ils se prennent une bonne raclée, là ça passe, on s'en souvient. Enfin, ça passe pas, plutôt, ça. Mais, imaginez maintenant que mes intérêts ne soient pas centrés sur l'équipe que j'aime, mais qu'ils soient plus larges. Qu'en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le football, en général. Alors là, j'écoute attentivement du début à la fin. Et je retiens tout. Et vous savez, il y a des gens comme ça, hein, des commentateurs sportifs qui retiennent tout, ils savent tout, et puis ils vont s'intéresser à tous les petits faits de jeu, les incidents, les belles actions, etc., etc. Et vous voyez qu'on a un genre, comment notre égocentrisme peut agir comme un filtre, vous voyez ce que je veux dire, quand on écoute quelque chose. Quand on a des intérêts qui sont purement personnels, on ne retient que ce qui nous intéresse personnellement. Et on le fait... parfois sciemment, mais bien souvent on le fait inconsciemment. Dans tous les cas, on le fait naturellement. Parce que nous sommes des êtres par nature égocentriques. Alors, maintenant, quelles sont nos motivations profondes? Non pas à l'écoute des résultats sportifs à la radio, mais à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce qu'on l'écoute avec égocentrisme, avec des motivations qui sont centrées sur nos intérêts personnels? Ou bien de meilleures motivations auxquelles je vais venir dans un instant. Pourquoi nous intéressons-nous à l'Évangile? Pourquoi venons-nous à l'Église? Est-ce que vous venez à l'Église pour vous donner une bonne conscience? Est-ce que vous venez à l'Église pour donner une bonne image de vous-même aux autres? Est-ce que vous venez à l'Église parce que vous avez un besoin de sociabilité, un besoin d'être avec des gens, un besoin d'être accepté? Est-ce que vous venez à l'Église parce que vous cherchez à plaire à quelqu'un en particulier? Le problème de toutes ces motivations égocentriques, je le répète, c'est qu'elles finissent par filtrer la parole de Dieu lorsqu'elle est enseignée, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est transmise. Alors que le message de l'Évangile, le message de la Bible n'est pas destiné à nourrir ou à flatter notre égocentrisme, mais bien au contraire à le pulvériser en réalité. Parce que l'Évangile nous parle avant tout de notre péché profond et du fait que nous sommes en réalité par nature incapables d'avoir les bons intérêts. Nous sommes incapables d'être intéressés par les bonnes choses, vous voyez ? Incapables de reconnaître ce qui constitue pour nous un véritable intérêt. Nos motivations, par conséquent, par nature, ne sont pas fiables. Elles ne sont pas fiables. Et l'Évangile nous parle d'abord de ça, du fait que, comme je l'ai lu tout à l'heure, nous sommes morts spirituellement dans nos fautes, dans nos péchés. Mais voilà, Dieu a manifesté son amour inconditionnel en prenant sur lui le poids de nos péchés en la personne de Jésus, qui a payé le prix de notre délivrance à la croix, en mourant pour nous et en ressuscitant pour nous. Et donc, quand on se rend compte de ce que Jésus a fait pour nous, lorsque l'on comprend, lorsque l'on s'intéresse à ce message, qui est le message de l'Évangile, on comprend que... Le problème de nos motivations, c'est quelque chose pour lequel Jésus a dû mourir. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de grave en nous. Le problème de notre péché, le problème de notre incapacité à faire les bons choix, à nous intéresser à ce qui est vraiment utile pour nous, ou ce qui est vraiment bénéfique pour nous. Jésus, il est mort pour ça, donc ce n'est pas rien. Donc si on comprend ça, mais qu'en même temps, on se dit, je vais suivre Jésus, mais en même temps, je veux garder des motivations égocentriques, c'est juste pas possible. Enfin, c'est incohérent, c'est peut-être possible parce qu'on est des gens tordus. Mais c'est incohérent. C'est en principe incompatible. C'est une contradiction. Jésus nous a sauvés pour remettre au centre de notre vie ce que nous aurions jamais dû en enlever, à savoir Dieu lui-même. Jésus veut remplacer notre intérêt, notre passion pour nous-mêmes, par un intérêt et une passion pour Dieu. Et donc, tout comme nos motivations profondes qu'elle soit fondée sur notre amour pour notre équipe ou pour notre amour plus large sur le sport en général, tout comme ces motivations conditionnent la façon dont nous écoutons et apprécions des résultats sportifs, de même, nos motivations profondes, qu'elles soient fondées sur notre amour pour nous-mêmes ou sur notre amour pour Dieu, conditionnent aussi notre écoute et notre appréciation de la parole de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que le reste de l'histoire nous montre au sujet de Félix. C'est ce que ça confirme en tout cas au sujet de Félix. La troisième chose que je voudrais relever dans ce court passage, c'est qu'en fait la parole de Dieu est si efficace qu'elle produit de toute façon un effet, soit positif, soit négatif. La parole de Dieu est si efficace qu'elle produit de toute façon un effet, soit positif, soit négatif. Et donc le texte nous raconte que Paul, tout en exposant donc la parole de Dieu à Félix, tout en parlant de Jésus, tout en parlant de l'évangile à Félix, il va lui parler des exigences de la sainteté de Dieu. Il va lui parler du jugement à venir auquel tous les hommes seront soumis. Et le verset 25 nous dit que Félix est profondément dérangé par cela. Félix, saisi de crainte, nous dit le texte, réagit ensuite à Paul. Pourquoi est-ce qu'il est saisi de crainte? Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Parce qu'il comprend à ce moment-là que recevoir l'évangile, cette information qu'il connaît bien intellectuellement entre sa femme Drusille qui est juive, qui en connaît peut-être un petit bout sur les Écritures de l'Ancien Testament, et Paul maintenant qui est à sa disposition 24 heures sur 24 pendant des semaines et des mois, il comprend maintenant que recevoir l'évangile, ça implique le fait de renoncer à son autonomie et d'accepter que Dieu veuille corriger ses défauts. Voilà pourquoi Paul lui parle de maîtrise de soi et de jugement et de justice. Mais Félix, vous voyez, le problème, c'est qu'il tient trop à ses défauts. Il a bâti son pouvoir, Félix, sur une cruauté notoire. Il mène une vie licencieuse qui lui convient bien. Et ça, on le sait grâce au livre d'histoire. Alors, quand il entend Paul parler de justice, de maîtrise de soi et de jugement, alors là, Félix, il est effectivement dérangé. Il préfère faire quoi? Il préfère changer de sujet. Trouver un prétexte pour mettre un terme à la conversation ou pour remettre la conversation à plus tard. Saisi de crainte, Félix lui dit « Pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » Étrange, non, que la parole de Dieu prêchée par le grand apôtre Paul, en personne, produise un effet aussi négatif. Quoi, on se serait attendu à ce que l'apôtre Paul, quand il prêche l'évangile, les gens sont convaincus de péché, qui se mettent à pleurer, qui demandent qu'une seule chose, c'est à recevoir le Seigneur. Et à devenir chrétien? Non, pas du tout. Félix, il préfère mettre un terme à la conversation. Vous savez, dans la vie, les mêmes ingrédients produisent parfois des effets très différents, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du beurre, de la farine, du lait et des œufs, par exemple? On peut soit faire un soufflé, soit faire des crêpes. Mêmes ingrédients. Et la parole de Dieu aussi, c'est la même pour tout le monde. La Bible, c'est la même pour tout le monde. Enfin, sauf quand des gens trafiquent les traductions, comme ils le font dans certaines sectes. Hein. Mais à la base, la Bible, c'est quand même la même pour tout le monde. C'est le même message, ce sont les mêmes ingrédients. Et donc, c'est la même parole de Dieu que Paul a annoncée au cours du livre des Actes, qu'il a annoncée à Chypre, à Antioche, à Iconium, à Lystre, à Derbe, en Syrie, en Cilicie, en Macédoine, en Grèce, bref, partout où Paul est allé, c'était les mêmes ingrédients, c'était le même évangile, c'était la même parole de Dieu. Et partout où il est allé, il y a eu de nombreuses personnes qui ont été converties, de nombreuses églises qui ont été établies, mais sous l'effet de la même parole, de nombreuses autres personnes ont froncé les sourcils, se sont bouchées les oreilles, se sont endurcis, se sont mis en colère et parfois même ont attaqué férocement le témoignage chrétien. La parole de Dieu, vous voyez, c'est une épée à double tranchant. C'est une épée efficace qui produit toujours un effet, mais parfois positif, parfois négatif. Elle pénètre là où ça dérange la parole de Dieu. Elle révèle les dispositions de notre cœur dans un sens ou dans l'autre. Et ici, elle a révélé les dispositions du cœur de Félix, qui tenait trop à ses défauts. Et l'auteur nous montre ici, je pense à travers cette histoire, que la parole de Dieu, elle a donc ce genre d'efficacité. Elle va produire un effet. Mes amis, si vous venez à l'église assez souvent, assez régulièrement, et si par la grâce de Dieu, la parole de Dieu continue d'être prêchée depuis cette chaire, fidèlement à son message, fidèlement à son contenu, mes amis, attendez-vous à ce qu'elle produise un effet dans votre vie, soit positif, soit négatif. L'invitation qui nous est faite, évidemment, c'est pas que nous nous endurcissions, mais c'est plutôt que nous nous examinions nous-mêmes, que nous examinions notre cœur, que nous considérions nos motivations profondes et que nous nous laissions éprouver par la parole de Dieu, même quand c'est douloureux, même quand ça dérange, même quand la Bible parle de maîtrise de soi, par exemple, et de justice et de jugement, et qu'on implore le secours de Dieu, qu'on fasse comme le PSG qui se frappe la poitrine. Aie pitié de moi, un pécheur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » Si vous n'êtes pas prêt à ce que la Bible pénètre dans cet endroit-là de votre être, ne revenez jamais à cette église. Hein, et n'allez jamais à une église où la Bible est prêchée. Hein. Allez plutôt dans les églises où ils ne prêchent pas la Bible, parce que comme ça, vous serez en sécurité. L'auteur continue, « Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui, c'est-à-dire devant Dieu. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors pour terminer, je veux juste poser une question toute simple. Est-ce que vous ressemblez plutôt à un soufflé ou à une crêpe? Parce qu'on est tous au bénéfice des mêmes ingrédients. Hein. La parole de Dieu, la prière, le culte, les sacrements, la communion fraternelle. Mais la recette, elle est conditionnée par nos motivations profondes. Quelles sont ces motivations? Moi, je ne peux pas vous donner la réponse pour vous. Hein. Pourquoi vous intéressez-vous à l'Évangile? Pourquoi venez-vous au culte? Est-ce que c'est par intérêt personnel, en cherchant ce que vous pouvez en retirer pour votre confort et votre bien-être? Ou bien est-ce que c'est par intérêt pour Dieu? Par intérêt pour Dieu lui-même, qui est le premier et le dernier. De qui, par qui et pour qui sont toutes choses? Est-ce que vous venez au culte? Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous priez en vous demandant comment vous pouvez mieux connaître et mieux servir celui qui vous a sauvé par amour et à un si grand prix qu'il a payé de sa poche? L'Évangile, en effet, nous parle de l'œuvre de grâce que Dieu accomplit pour nous, de sa propre initiative, à ses propres dépens, pour nous racheter de nos fautes et pour nous restaurer. Et donc Dieu pulvérise par l'Évangile notre égocentrisme. Il pulvérise nos motivations qui sont centrées sur nous-mêmes, sur nos propres intérêts. Dieu compte maintenant, si vous êtes attaché à Jésus par la foi, si vous l'aimez en retour de ce qu'il a fait pour vous, maintenant Dieu il compte vous transformer par la puissance du Saint-Esprit, sous l'effet de sa parole, et tout au long de votre vie chrétienne. Voilà ce que Dieu est en train de faire avec son sécateur, qui est la parole de Dieu, qui est sa parole, par cette épée à double tranchant. Et ça fait mal des fois. Mais c'est pour notre bien. Prions donc le Seigneur de sanctifier nos motivations profondes par son esprit. Hein, parce que lui, il peut le faire, il est puissant, il peut changer notre cœur, il peut nous enlever notre cœur de pierre et nous donner un vrai cœur, un cœur de chair. Il peut nous faire naître de nouveau, il peut faire de nous des nouvelles créations. Prions donc qu'il nous sanctifie tout entier, même à l'intérieur. Prions qu'en plus du privilège que nous avons de pouvoir étudier librement sa parole, eh bien que celle-ci puisse aussi avoir un effet bénéfique dans notre vie, qu'au lieu de ressembler à des crêpes, nous accueillions plutôt le souffle vivifiant du Saint-Esprit qui fait lever en nous la pâte et qui permettra que nous ne nous intéressions pas à l'Évangile en vain, comme l'a fait Félix, mais que par le moyen de notre foi, une foi sans arrière-pensée, eh bien que nous portions du fruit à la gloire de notre Créateur et que nous trouvions en lui notre bonheur éternel. C'est pourquoi je disais en introduction que ce texte voulait nous faire comprendre tout simplement que le christianisme ne porte du bon fruit que chez ceux qui veulent sincèrement connaître Dieu. Amen. Prions. Oui Seigneur, en lisant ce texte, nous nous rendons compte que parfois nous sommes habités par des motivations qui sont troubles, qui ne sont pas les bonnes, un peu comme Félix, nous cherchons notre intérêt personnel. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous, s'il te plaît, à être prêts à ce que, sous l'effet de ta parole, eh bien, tu fasses des choses en nous qui parfois ne sont pas agréables. Mais donne-nous l'humilité, la lucidité, la prudence nécessaires pour que nous accueillions à chaque instant, tous les jours, l'œuvre bénéfique que tu comptes réaliser en nous par ta puissance et sous l'effet de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.